Bon, Hachem, on va reprendre la paracha et Hachem un peu d'alakha à la fin du cours. Cette semaine, deux parachiotes qui sont assez longues en elles-mêmes, c'est Tazria, Metsura. Les deux parachiotes sont en particulier parce qu'elles traitent de la lèpre. Ça veut dire une personne qui a eu cette plaie qui s'appelle la lèpre et cette personne a dû se purifier et après rentrer dans le camp d'Am Israël. On va expliquer un peu qu'est-ce que c'est la lèpre. Il y avait un miracle pour l'âme Israël qu'on disait dans le désert. Le miracle était le suivant. Vous savez que l'homme, il est distingué de l'animal en quoi? L'homme est distingué de l'animal par sa parole. L'animal mange, l'animal dort, l'animal court, l'animal fait tout ce qu'il a besoin de faire, sauf qu'il ne peut pas parler. Même le perroquet, quand on les enseigne à parler, c'est pas de la parole, c'est rien qu'ils répètent ce qu'ils entendent. Ils ont une petite machine qui peut recorder quelques mots, et ils répètent. Mais c'est tout, ils ne peuvent pas parler. Alors l'homme est distingué par sa parole. Puisqu'il est distingué par sa parole, c'est un outil qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et vous allez voir, cet outil, c'est comme un couteau à double tranchant. Et tout le problème de l'homme, dit Shlomo HaMelech, vient de la bouche. Tout le problème d'un homme, c'est de la bouche. Comme il dit, Shomer pivul shono, shomer mitzavot nafsho. Tu gardes ta langue, tu gardes ta bouche, tu te gardes de tout malheur et de tout problème qui peut exister au monde. Tout vient de la bouche. C'est un outil que Akadosh Baruch Hu, et surtout d'où ce qui ça vient, c'est de la langue. Et la langue, Akadosh Baruch Hu voulait la garder, bien la garder comme il faut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné deux barrières. Une, c'est les dents, pour qu'elle ne dépasse pas cette barrière. Et la deuxième, c'est les lèvres, pour qu'elle soit bloquée en deux barrières, une dans l'autre. Et avec tout ça, ça n'a pas servi. Ça n'a pas servi. Au point que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dans le Talmud, que si lui, il serait au moment que Akadosh Baruch Hu aurait créé l'homme, il aurait demandé à Akadosh Baruch Hu de créer l'homme avec deux bouches. Une pour parler la Torah, et l'autre parler tout ce qui est profane, tout ce qu'il a besoin pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment tu peux utiliser la même bouche, étudier la Torah, et parler de tes choses personnelles? Ça ne marche pas, la Torah c'est sacré. Mais après une réflexion, disait Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Avec une bouche comme de la Shonara qu'on parle, avec deux, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait détruit le monde. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu a bien fait de nous créer, avec une seule bouche et pas avec deux. Pour dire que la bouche c'est quelque chose d'important, et aussi c'est quelque chose qui peut apporter ou du bonheur, ou Chas V'Shalom, le contraire, aussi la malheur. Maintenant Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il a aimé son peuple, Am Israël, qu'ils sont sortis de l'Égypte. Qu'est-ce qui arrive à Akadosh Baruch Hu, quand une personne fait une faute, il veut qu'il reconnaisse sa faute dans ce monde pour qu'il puisse réparer sa faute, et quand il montera après 120 ans, il montera pur. Dans le désert, comme à Akadosh Baruch Hu, la présence divine était constamment avec l'âme Israël, il y avait un miracle, tout celui qui parlait la shonara, la médisance, tout celui qui utilisait sa bouche pour dire de choses qui sont sales, qui ne sont pas appropriées ou adéquates selon la Torah, il recevait une plaie. Mais la plaie, comment elle commençait? Elle commençait par sa maison. Qui veut dire, ce monsieur, un jour, arrive à la maison, et sur le mur de la maison, il voit comme de taches vertes. Et comme la moisissure, dans cette tache, c'est une salaire comme une moisissure, verte. Et là, il comprend rien, il doit appeler le Kohen. Mais la Torah dit, attention, avant que tu appelles le Kohen, sors tout ce que tu as à la maison. Sur la table, sur les chaises, sur le ustensile, tout ce que tu as. Pourquoi? Si le Kohen arrive, et il vous dit que ça c'est une plaie qui s'appelle Tsara'at, la lèpre, qui est sur le mur de votre maison. Dans ce cas, tout ce qui est dans la maison en ce moment, que le Kohen est arrivé, il a décrété que cette maison est impure, devient impure. Alors il vaut mieux tout sortir avant que le Kohen arrive. Une fois qu'il a tout sorti, imaginez-vous, c'est un déménagement qu'il doit faire. Il doit sortir tout, le table, le lit, tout ce qu'il a à la maison, les ustensiles dans la cuisine, tout. Il appelle le Kohen. Le Kohen vient et le Kohen regarde. Il lui dit, oui, ça, effectivement, c'est une plaie de Tsara'at. Même si la personne le sait, il ne peut pas décider. C'est seul le Kohen qui peut décider si c'est la lèpre ou pas. Et quand le Kohen a décidé si c'est la lèpre, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans tous les endroits, dans toutes les briques, avant c'était la construction des briques, c'est pas comme en Canada, le gyproc, tu coupes tout, c'était des vraies briques. Dans toutes les briques où on a trouvé cette lèpre, il faut leur casser et remplacer, et ces briques qui sont tellement impures qu'on ne peut pas les garder en ville. Il y avait un endroit hors du camp d'Am Israël qu'il fallait jeter très loin pour qu'il ne reste pas en ville, c'est tellement impur. On remplaçait, on attendait. Maintenant, si ça va, après une semaine, ça va, la personne peut retourner chez lui. Si ça retourne, Encore, il faut refaire ces processus une deuxième fois. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Qu'est-ce qui va décider que ça va être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? C'est les actions de ce monsieur. Est-ce qu'il a compris le message ou pas? Si à Kol Khout t'envoie la lèpre sur le mur et tu as compris le message, ça y est, après 1 semaine, ça va guérir. Il y en a qui ils sont un peu plus retardés de penser, alors ils vont, ça va prendre 2 semaines, 3 semaines. Mais il y a de ceux-là qui n'ont rien compris. Et Kol Khout dit, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Alors il faut que je continue. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il envoie une lèpre sur ses habits. Et là, un jour, il s'élève sur son pull ou sur sa chemise ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il trouve? Des taches vertes encore. Et là, il doit appeler le Kohen. Le Kohen vient et dit, il le confirme. Effectivement, c'est une lèpre. C'est un type de lèpre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ce morceau. À l'époque, il ne pouvait pas se payer notre pull ou quelque chose comme ça. On coupe le morceau, on va le coudre encore de nouveau. Et le morceau va être brûlé dans le feu. Si le monsieur a compris le message, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait déjà la deuxième fois. Il t'a frappé déjà sur le mur de la maison. Trois fois, tu n'as rien compris. Il est parti plus loin, sur tes habits. Et tu ne comprends pas encore parce que ce monsieur continue à parler la médisance, le lachon hara. Il continue à parler le mal des gens. Là, la troisième fois, il envoie la lèpre sur la peau directe de cette personne. Et là, le Kohen vient et il regarde la peau. Il y avait différents types de lèpre. Toutes les lèpres étaient blanches. Ça veut dire que cette plaie était blanche. Mais il y avait quatre. Il y a le blanc coquille d'œuf. Là, vous dites, il faut faire d'autres comme on fait la peinture. Il y a blanc coquille d'œuf, il y a blanc de neige, il y a blanc de ça. Il y a 4 types de blanc et c'est le coin qui savait exactement quelle est la pure et quelle est la impure pour qu'il les purifie ou qu'il les impurifie. Et là, si le coin décide que ce monsieur est impur, malheureusement, on le renvoyait hors du camp de Ham Israël. Il devrait rester seul. Et quand même une personne passe là-bas par erreur, quelqu'un passe par là-bas, il doit lui dire, éloigne-toi, il est impur, tu ne peux pas t'approcher de lui. Ça veut dire, lui doit crier. Ça, c'est une honte qu'il a. Pourquoi? Dit la Torah, quelqu'un qui parle à médisance, quelqu'un qui parle de la Shonara, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire la séparation entre le monde. Parce qu'il parle, il dit à Reuven, tu sais qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a fait telle et telle chose. Automatiquement, Reuven, il a une haine contre Shimon. Il les a séparés. Avant, ils étaient des amis, maintenant, ils les ont séparés. Dès que tu as séparé des amis, dans ce cas, on va te séparer toi aussi. Et tu vas être éloigné de la ville et tu vas t'asseoir tout seul pendant 1 semaine. 1 semaine passe et le Kohen sort là-bas hors du camp et il va le voir. Si ce monsieur, durant 1 semaine qu'il a été isolé, il pouvait parler à personne, il pouvait rien faire, il n'était pas en contact, même pas de sa famille, même pas de sa femme, de ses enfants. Il a compris le message, tout de suite la lèpre va disparaître. Et le Kohen, quand il va aller là-bas, il va lui dire, voilà, tu as guéri, rentre. Rentre maintenant, on va te purifier et tu rentreras dans un cycle normal de la vie. Tu retourneras à ta famille, tu retourneras chez tes amis, tu retourneras à ta communauté et tout rentre à la normale. Si le Kohen arrive et le message n'a pas été compris encore parce qu'il y a des gens qui sont durs de compréhension et ils n'arrivent pas à comprendre, il lui dit, reste encore 1 semaine, on verra la 2e semaine, encore il sera isolé pour 1/2e semaine, tout seul, sans sa famille, sans ses amis, sans la communauté, et il sera là-bas jusqu'à que le Kohen ira et le recherchera, il le rapportera de nouveau. Pour dire que cette lèpre n'existe, le Ramban, le Maïmonide explique, ce miracle n'existe plus. Aujourd'hui, tu parles à Shonara, tu ne vois rien. Tu as parlé, qu'est-ce que je fais de mal? Il y a des gens qui disent, quand ils parlent à Shonara, qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je l'ai tué? Je l'ai frappé? Mais ils ne savent pas que la Shonara, hein, c'est tellement grave. Tu peux te trouver dans un endroit, tu trouves en Canada, tu peux tuer quelqu'un en Chine. En rien du tout, tu peux tuer une personne. Qu'est-ce que c'est tuer? Tuer, ça veut dire physiquement tuer. Ou tuer veut dire tu lui enlèves sa parnassa. Tu parles de quelqu'un du mal. Tu dis, ah, il n'est pas bien celui-là. Il allait avoir un bon travail. Tu as dit à quelqu'un d'autre, mais c'est un voleur, c'est pas un homme, un autre. Honnête. Et peut-être que c'est pas vrai. Tu l'as tué. Tu l'as tué, même si tu as dit la vérité. Même si tu as dit la vérité, des fois, on peut tuer une personne rien qu'avec la langue. Il faut distinguer entre la shonara et motzi shemra. C'est 2 choses différentes. Les gens, ils se trompent. Pourquoi ils se trompent? Les gens, ils disent, mais quand je parle mal de quelqu'un, qu'est-ce que je dis? Je dis la vérité. Je dis la vérité. C'est comme ça qu'ils disent. Je n'ai pas menti. C'est vrai. Mais la shonara, c'est la vérité. La médisance, c'est de rapporter la vérité. Il y a quelque chose de plus grave que la shonara. Il y a quelque chose de plus grave que la médisance. C'est le motzi shemra. Motzi shemra, c'est de dire sur quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est plus grave que la médisance. Mais les gens, peut-être, ils font attention à cela, de ne pas dire. Des fois, malheureusement, dans une histoire, il y a des fois des histoires, chaque personne ajoute un mot. Chaque personne ajoute un mot, tu prends 10 personnes, chacun a ajouté un mot, tu as fini avec la personne. Il y avait une histoire vraie comme ça, avec un rabbin d'Israël, il est parti collecter de l'argent en Argentine. Quand il est arrivé, il a donné un discours magnifique, les gens ils étaient épatés, ils étaient prêts à donner et tout ça. Et quand c'était le moment de faire l'appel de fonds, personne ne lève la main. Michel Berard, personne ne veut lever. L'autre, il n'a pas compris parce qu'il a vu que les gens sont intéressés. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a demandé à quelqu'un à côté, mais pourquoi il ne lève pas la main? Pourquoi il ne donne rien? Il dit, malheureusement, ils ont écouté que vous avez volé un Sefer Torah, alors ils ne peuvent pas donner une donation à un voleur. Il dit, moi, j'ai volé un Sefer Torah. D'où vous avez eu cette information? Il dit, voilà le monsieur qui s'assoit au premier rangé, il nous a dit ça. Alors, il l'a appelé, il dit, toi, tu me connais que j'ai volé un Sefer Torah? Il dit, non, c'est pas moi qui l'a dit. Moi, je l'écoutais du gars qui se trouve en arrière de moi. Il dit, bon, qui c'est? Il lui a montré. Il a dit, bon, il lui a demandé à lui. Il lui a demandé, toi, tu me connais que j'ai volé un Sefer Torah? Il dit, non, moi, je n'ai pas dit que vous avez volé un Sefer Torah. Moi, j'ai dit que vous avez volé un livre. Un Sefer. Lui, il a ajouté le mot Torah. Mais moi, j'ai dit un Sefer. Il dit, bon, mais c'est vrai, mais toi, tu me connais que j'ai volé un livre. Quel livre j'ai volé? Il dit, non, ça, c'est pas moi qui l'a dit. Je l'écoutais de celui qui se trouve en arrière de moi. Alors, on a demandé à celui qu'est-ce que tu as dit? Il dit, moi, je dis qu'il a volé le Sefer, je n'ai rien dit. Moi, je dis que vous avez volé votre discours d'un certain livre. Lui, il a dit Sefer, et l'autre, il a ajouté Torah, on lui a fait un volé de Sefer Torah, et le pauvre, il n'a pas eu de donation. Pour dire qu'il suffit d'un mot, il suffit d'ajouter un mot de tuer quelqu'un. Tu l'as rendu déjà voleur, tu l'as rendu un Sefer Torah, tu pètes tout. Et c'est comme ça, le Lashon Hara. Lashon Hara, on veut dire des fois la vérité, mais même la vérité, c'est assourd. Et surtout, si tu ajoutes un détail qui est faux, là vraiment, tu rentres dans une autre catégorie plus élevée, un péché plus grand, c'est Motsi Shemra, de sortir un mauvais nom, de donner à quelqu'un un mauvais nom sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais c'est ça, le Hafetz Chaim explique dans son livre. Il explique que la majorité des problèmes, parce que les gens ne croient qu'ils ne font rien de mal en apportant que de la vérité. Mais la vérité, dans ce cas, est le problème, et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter. Des fois, on peut tuer ou faire du mal à quelqu'un, rien qu'avec un clin d'œil. Qui veut dire? On vous demande une question. Comment il est ce monsieur? Je vais l'engager, ou je vais lui donner un travail, ou comment? Et toi, tu bouges rien de la tête, tu fais comme ça. Tu n'as rien dit, tu fais comme ça. Ça veut dire que tu veux pas parler. Tu veux pas parler, tu n'as rien dit. Même tu as fait comme ça, l'autre dit, ok, j'ai tout compris. Alors, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est un tueur, c'est un voleur, c'est un méchant. Et tu n'as rien dit. Ça s'appelle avak lashon hara, la poussière de lashon hara, qui veut dire tu n'as rien dit, mais c'était déjà beaucoup pour finir avec cette personne. Pour dire que quand on parle et quand on fait des gestes, il faut faire très attention qu'est-ce qu'on dit, comment on se conduit, parce qu'on peut carrément tuer quelqu'un rien qu'en faisant un geste ou en disant un mot qui n'est pas dans sa place. Et c'est ça toute la paracha de deux parachas d'aujourd'hui, qui sont très longues. Chaque une traite de ce problème de tsaraat, la lèpre, qui était à cause de ces gens qui parlaient la médisance. Je crois qu'Akash Boukho a bien fait d'enlever cette plaie, parce que sinon, tout le monde serait blanc aujourd'hui, complètement blanc, parce qu'il est très difficile de se garder la parole et de ne pas dire des choses que des fois qu'on veut pas dire, mais des fois malheureusement ça sort. Mais c'est pour ça qu'il y a des livres à étudier, c'est pour ça qu'il faut s'éduquer et s'instruire. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? C'est vrai parce qu'on des fois on pense qu'on est limité. Alors je peux rien dire, je peux pas être ami. Non, tu peux tout dire. Comme le Hafetz Chaim une fois, il y avait quelqu'un qui est venu le parler, un rabbin, il est venu le parler. Ils ont parlé durant 2 heures. Ils ont parlé de toutes sortes de choses, pas nécessairement de la Torah. Ce rabbin, après qu'il a quitté le Hafetz Chaim, il s'est énervé. Il a dit, quoi? J'étais chez le Hafetz Chaim 2 heures, on a parlé de toutes sortes de choses, mais on n'a pas parlé de Torah. Quel gaspillage de temps. Qu'est-ce que j'étais chez le Hafetz Chaim? Alors, le Hafetz Chaim a vu qu'il est un peu triste. Il a dit, qu'est-ce que tu as dit? 2 heures, on a perdu comme ça. Il a dit, mais fais attention. La conversation de 2 heures, il n'y avait même pas un mot de la Shonara. Il n'y avait même pas. Est-ce que quelqu'un est capable de parler 2 heures sans dire un mot de la Shonara? Ça en elle-même, c'était mitzvah. C'est plus que la Torah. Parce que même tu peux parler de la Torah, mais tu peux donner des exemples. Et dans les exemples, tu peux avoir aussi de la Shonara. Pour dire qu'on peut parler, Personne n'a dit qu'on est limité de la parole, on ne peut pas parler, on peut parler. Mais il faut savoir quoi dire et quoi parler. Et c'est pour ça qu'il faut étudier. Et surtout, tout le livre de Rav Etzraïm, il y a une leçon par jour. Il y a toutes sortes de livres qui parlent de la Shonara. Le Rav Pliskin aussi, il a des livres sur la Shonara. Pour dire que des fois, c'est bien de regarder pour savoir plus ou moins qu'est-ce que je peux dire ou qu'est-ce que je ne peux pas dire. Maintenant, dans le Midrash, il y a un Midrash très connu. Il y a un Midrash connu. Qu'il y avait un commerçant qui allait de ville en ville pour vendre sa marchandise. Ce commerçant est arrivé dans la ville de Tzipori, qui était une ville qui avait beaucoup de rabbins, beaucoup de chachamim. Quand il est arrivé là-bas, il avait un petit chariot, et sous le chariot, il y avait toutes sortes de marchandises, il y avait des petites bouteilles, des petits parfums, toutes sortes de choses, et il criait, « Qui c'est l'homme qui veut la vie ? Qui c'est l'homme qui veut la vie ? J'ai quelque chose pour donner la vie à une personne. » Les gens croyaient, parce qu'à l'époque, ils voyageaient avec toutes sortes de médicaments naturels, non naturels, toutes choses comme ça. Les gens croyaient que dans cette bouteille-là, il y a quelque chose que si tu le prends, tu as de la vie. Alors la Midrash dit, toute la ville se ramassait à côté de lui, et dit, vends-nous de tes bouteilles, donne-nous de tes remèdes, de tes médicaments. Il y avait Rabbi Anaï qui était sur son balcon. Lui ne pouvait pas se déplacer. Et Rabbi Anaï a demandé à ce commerçant, viens chez moi, hein, vends-moi un de tes bouteilles. Et le commerçant lui dit, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour le reste des gens. Vous n'avez pas besoin de ça. Il dit, comment? Moi aussi, je veux de la vie. Si il s'agit d'une longue vie, une bonne vie, moi aussi, je la veux. Il dit, non, c'est pas pour vous. Il dit, pourquoi c'est pas pour moi? Le Midrash dit, il a pris un livre de Tehillim. Il a ouvert sur un des psaumes. Et c'était écrit, Mia Ish et Chafetz Chaim. Qui c'est l'homme qui veut la vie? Qu'est-ce que c'est écrit tout de suite après? Netzor le shoncha mira, usfatecha medaber mirma. Tu veux la vie, dit David Amelech. Garde ta langue de parler le mauvais, ça veut dire le lashon hara. Usfatecha et t'élève medaber mirma. Que tes lèvres ne parlent pas de mensonges. Si tu fais ces deux choses, de ne pas parler le lashon hara, la médisance, et l'élève qui ne parle pas le mensonge, Chafetz Chaim, tu reçois la vie. Alors vous qui vous apprenez toutes les journées de la Torah, vous n'avez pas besoin de ça. Qui c'est qui a besoin de ça? Il a dit, tous ces commerçants qui sont ramassés autour de moi, eux qui sont toute la journée dans le marché, qui parlent avec des autres personnes, eux, ils doivent faire attention, et c'est ça que je suis en train de vendre. Dans les bouteilles, il n'y a rien. Tout ce qu'il les a vendus, c'est un verset en Tehillim. Mi aish chafetz chaim. Netzor shem chamera. Rabbi Anna était tellement fasciné par l'explication, il a dit, waouh, toujours je lis chaque jour le Tehillim, mais je n'ai jamais compris le verset comme on avait expliqué. Là, il a compris, et là, il était bien avec cela. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il lui a dit de nouveau? Il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est textuel. Miaïche Chafetzraïm, qui sait qui veut de la vie, Netzor le Shouchan Mera, Osfater Hamedaber Mima. Qu'est-ce qu'il lui a dit, ce commerçant, plus que Rabbi Anna, il ne savait pas avant, qui lui dit, j'ai jamais compris le verset de telle manière. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Bon, il y a, je vous dis que sur ce passage, sur ce Midrash, il y a plein de commentaires, plein. Chacun, il donne son avis parce qu'en vérité, il faut comprendre qu'est-ce que Rabbi Anaï il a vu de spécial dans ce verset. Alors, Hachem, je vous propose un commentaire là-dessus que je crois peut-être c'est une belle manière de l'expliquer de manière. Rabbi Anaï, la Gemara rapporte, il avait un beau-fils. Le beau-fils s'appelait Rabbi Houda, fils de Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était un grand érudit. C'était un élève de Rabbi Houda Anassi, un kadosh. Il avait un fils qui s'appelait Rabbi Houda. Rabbi Chia a marié son fils Rabbi Houda avec la fille de Rabbi Anaï. Maintenant, Rabbi Houda allait toute la semaine étudier dans la yeshiva. Il revenait que le vendredi après-midi. Ça veut dire qu'il a vu sa femme une fois par semaine. On dit que la Torah qu'il apprenait, qu'il étudiait, il a tellement étudié Bekdusha V'Tahara avec de sainteté, que quand il revenait, les gens de la ville, quand il revenait, ils voyaient un nuage en feu qui accompagnait ce rabbin, Rabbi Houda. Et les gens, ils savaient, voilà, Rabbi Houda est en train d'arriver en ville avec ce nuage en feu. Donc, chaque vendredi, c'était la même histoire. Il revenait, il passait le Shabbat avec sa femme, ils mangeaient ensemble. Motsei Shabbat, il reprenait la route pour la Yeshiva et retournait la semaine d'après. Un vendredi, il a été emporté par son étude. Rabbi Houda, fils de Rabbi Chia, a été emporté par son étude. Il n'a pas regardé la montre et l'heure a commencé à passer et il a oublié que c'est Shabbat. Et bientôt c'est Shabbat, il ne pourra pas prendre la route. et sa femme en train de l'attendre, et elle s'inquiète, pourquoi il n'est pas venu ce vendredi, normalement il vient le vendredi. Elle est partie voir son père, Rabbi Yanaï, lui dit, regarde, Rabbi Yehuda n'est pas venu. Alors il lui dit comme ça, je crois ma fille qu'il est décédé. Parce que s'il serait vivant, il serait venu. Mais ça doit être qu'il était vivant, qu'il est décédé. La Gemara rapporte, en vérité, il était en route, il a pris la route quand même pour venir à la maison. Le moment qu'il a dit qu'il est décédé, il est mort. Il est mort là-bas. Ce beau-fils est mort. Et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée, la fille se remarie après. Bon. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. La Gemara explique, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a certaines personnes qui ont un certain niveau, tout ce qu'ils disent s'accomplit. S'accomplit parce qu'ils ont un certain niveau, qu'Akash Bourou écoute leur prière. La Gemara dit, c'est comme quelqu'un qui a décrété quelque chose, qu'Akash Bourou a exaucé. Il a dit qu'il est mort, Akash Bourou l'a tué. Là, vous allez comprendre l'histoire de Rabbi Yanaï. Quand ce commerçant, il est venu vendre cette eau de vie, il a dit, qui c'est qui veut la vie, qui c'est qui la vie, la vie, garde ta langue de parler la médisance et tes lèvres de parler le mensonge. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Rabbi Yanaï a compris plus qu'il a compris avant? Il a dit, parce que je comprends maintenant, pourquoi il faut garder sa langue et ses lèvres? Parce que dans son niveau à lui, tout ce qu'il dit, quand je crois accompli. Dans ce cas, lui, il ne parlait jamais de la Shonara, mais lui aussi, il fallait qu'il fasse attention à ce qu'il dit, parce que voilà, il a tué son beau-fils à cause de ce qu'il a dit. Est-ce que lui, il avait l'intention de faire du mal? Pas du tout, et au contraire, ça a fait du tort à sa fille, mais c'est ça qu'il a compris. C'est tellement. Alors, il y a une explication du Rav Echanan Wasserman. Le Rav Echanan Wasserman me dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a fait? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a écouté sa prière? Bon, il y a des prières qu'il faut écouter, il y a des prières, peut-être qu'il faut. Il dit parce que la langue, il voulait l'apprendre, que la langue, c'est comme un couteau à double tranchant. Qui veut dire quoi? Avec un couteau, tu peux couper de la salade. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux couper aussi ton doigt. C'est ça? Qui veut dire quoi? Est-ce que tu voulais couper ton doigt? Tu ne le voulais pas. Mais c'est ça le couteau. Le couteau, il coupe tout ce que, sur quoi tu frappes. Alors il dit que c'est ça la langue. La langue, elle peut faire du mal même à celui que tu ne voulais pas faire du mal. La langue, il faut faire attention. Elle peut faire du bien, mais peut aussi faire du mal. Et c'est pour ça que Rabbi Anna a été fasciné par l'eau de vie de ce commerçant. Pourquoi? Il a dit, c'est pas possible, je n'ai jamais compris jusqu'où peut aller la langue. Que moi, je n'avais pas intention à lui faire de mal. Et le fait que je le dis, voilà, il a tué son beau-fils. Pour dire que, des fois, on n'a pas de mauvaises intentions à faire du mal à quelqu'un. Mais on raconte une histoire innocente. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Mais à qui tu l'as dit? Tu l'as dit à quelqu'un qui peut-être il va le prendre mauvais. Et s'il a pris des mauvais air, ça peut aller faire de dégâts à celui sur lequel on a parlé. Le rabbin Ishraï rapporte, il y avait quelqu'un qui parlait que de la médisance. C'était son hobby. Il aimait comme ça. Il y a des gens comme ça. S'ils ne parlent pas, ils ont pas de vie. Alors il va, il passe. Celui-là, c'est comme ça qu'il faisait. Donc, un jour, il a écouté un cours sur la Shonara, il a compris cette malheur de la Shonara, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, il voulait faire tchouva. Il est venu chez le Rav de la ville, il a dit, Rabbin, vous savez, 30 ans, je n'ai pas cessé de parler le mal sur les gens. Mais maintenant, je me répondis, donnez-moi seder, un ordre, comment faire tchouva. Le rabbin a pensé quelques minutes, il a dit, bon, tu vas aller dans un poulailler, tu vas me prendre un sac, et tu me remplis ce sac avec des plumes, des plumes. Et tu reviens. Donc, il a dit, qu'est-ce que ça va, quel tchouva je peux faire avec des plumes? Donc, il est parti, il a ramassé, il a rempli un sac avec des plumes et est revenu chez le Rav. Le Rav lui a dit, tu montes sous mon toit et tu jettes, tu lâches le sac et tu laisses toutes les plumes se disperser en ville. Mais tu fais attendre quand il y a un peu de vent. Donc, il le fait. Il retourne. Qu'est-ce que maintenant? Maintenant, le dernier étape de ta tchouva, va me ramasser toutes les plumes. Il dit, mais c'est pas possible. D'où ce que je veux, ils sont éparpillés jusqu'à la fin, jusqu'au fond de la ville, comment je vais les ramasser? Il dit, alors comment tu veux faire tchouva sur la médisance et la shonara que tu as parlé de 30 ans? Est-ce que tu peux réparer tout ce que tu as parlé du mal? Quand tu as parlé du mal de quelqu'un, il se peut que ce monsieur est déjà mort. Il se peut qu'il a quitté la ville. Mais le mal est resté. C'est ça qu'il faut comprendre. La shonara, même le jour qu'on voudra faire tchouva, la tchouva va être difficile un peu parce que comment tu vas le faire? C'est vrai que la Gemara dit, tout celui qui a trébuché sur ce péché, qu'il apprend la Torah. Et la Torah va être la remède, va être l'expiation pour toute la chambre qu'il a parlé. Mais c'est sûr qu'il faut toujours demander pardon à celui sur lequel on a, au qui on a parlé du Lashon Hara. Le Rav Ben Yishai rapporte dans une autre paracha, une autre histoire, il rapporte qu'une fois, il y avait un roi qui n'était pas juif. Il avait un conseiller juif. Et il aimait beaucoup ce conseiller. Quand il voyageait, quand il allait se promener, toujours ce conseiller était avec lui dans son char ou dans son bateau. Là où est-ce qu'il allait, il prenait son conseiller juif. Et les gens commençaient, les goïms, ils étaient un peu jaloux. Pourquoi il a choisi un juif parmi tous les goïms qu'il y a, rien qu'un juif qui peut choisir. Mais le roi l'aimait parce qu'il était sage, il était bien, il était honnête. Donc, un jour, le roi passe dans son char, il est avec le conseiller juif, et il passe dans la ruelle, dans une ruelle de goïms. Et il entend comment le tailleur, il chante mauvais sur les juifs. Il a fait toute une chanson sur les juifs. Des juifs, c'est des voleurs, des assassins. Les juifs, ils ne vont rien, il faut les écraser, il faut les tuer. Toute une chanson. Et le roi, il a arrêté le char parce qu'il voulait écouter jusqu'à la fin de la chanson. Quand il a écouté, il a dit à son conseiller, est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce qu'il a dit sur les juifs? Il dit, j'ai écouté. Il dit, alors moi, je te donne l'ordre de prendre deux mains, de prendre la langue et la couper. À ce monsieur. Et tu me la portes, sa langue. Parce que s'il est capable de parler comme ça sur le juif, moi je sais quelle est la valeur du juif. S'il a dit parler comme ça, il faut lui couper la langue. Ce conseiller lui a dit, je le ferai, Bezrat Hashem. Le lendemain, il va chez lui avec un sac d'argent, avec chez le tailleur, avec un sac d'argent. Il lui donne le sac d'argent, il lui dit, je vous remercie pour la chanson, elle était très belle. Et peut-être, vous savez, avec cet argent, on va devenir des amis. Il lui a donné une grande bourse d'argent. Et il a laissé comme ça. Ils sont amitié, il a laissé comme ça. La prochaine fois, il passe dans la même ruelle. Lui, le roi, passe dans la même ruelle. Et il écoute le tailleur chanter. Le roi s'est énervé contre le conseiller. Je ne vous ai pas dit à quelques jours de lui couper la langue. Pourquoi je l'entends encore chanter? Alors le conseiller dit, mais on s'approche, on va voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Ils s'approchent, qu'est-ce qu'ils entendent? Toute une chanson. Il n'y a pas comme les juifs au monde. Ils sont le meilleur au monde. C'est des gens honnêtes. C'est des gens qu'on peut faire confiance. Toute une chose qu'à la fin. Le roi, bon, il s'est calmé un peu. Il me dit, mais je t'ai dit de lui couper la langue. Il dit, mais c'est ça que j'ai fait. Il dit, comment tu as fait ça? Il dit, je lui coupais la mauvaise, je lui ai mis une bonne. Maintenant, c'est pour ça qu'il fait toute une bonne chanson. Avec quoi? Avec un peu d'argent, il lui a changé la langue. Ça veut dire que c'est réparable. C'est réparable. Chacun, il a sa faiblesse, mais il a aussi son tikkun. Et le tikkun que la Gemara rapporte pour tout le monde, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça qui fait le tikkun, quand on apprend la Torah, on apprend aussi de garder la langue, de ne pas parler le mal. Il y a une belle explication que j'ai vue. Vous savez que des fois, une personne qui était mauvaise, il n'a pas de mérite d'aller au Olam Haba. Mais des fois, c'est pas tout le corps qui n'a pas de mérite. Tu peux avoir de mauvaises personnes qui sont méchants, mais qui ont un mérite que quelques organes de leur corps vont en bas et ils ne vont pas. Il y a un exemple comme ça dans le prophète, où il y avait une reine très méchante. Quand elle voyait un prophète, quand elle voyait un érudit de Torah, elle l'a tué. Elle a tué tous les prophètes d'Am Israël. Elle s'appelait Isabelle. Isabelle, la femme de Achav, elle tuait toutes les prophètes. Elle voulait même tuer Eliyahu Navi. Mais Eliyahu Navi, il s'est sauvé. C'est ça? Et toujours, tout ce qui était contre la Torah, elle le faisait. C'était vraiment une femme très méchante. Et elle avait une bonne qualité. Une. Quoi? Un juif. Oui. C'était la reine d'Am Israël. C'est la femme de Achav. C'est la femme du roi Achav. Le roi Achav, qui était roi juif. Sa femme, elle était contre le Nevi'im, contre le Talmid Chachamim, contre tout le monde. Elle faisait que du mal. Donc, pas une fois. On dit, elle avait une qualité, une bonne qualité. C'est quoi la qualité? Quand on voyait un Khatan et Kala, avant, ils avaient la coutume que le Khatan et la Kala passaient dans la rue. Et quand on voyait un Khatan et Kala passer, elle sortait de son palais et dansait devant la Kala. Elle tapait avec ses mains, elle dansait avec ses pieds, elle faisait la simchat chatan mekala comme il faut. Et quand il y avait un enterrement, il y avait un cercueil qui passait dans la rue, elle sortait, elle pleurait. Ah, c'est dommage, un autre juif qui est mort, c'est dommage pour toi, on a besoin de toi et tout ça. Elle ne faisait pas la distinction si c'était un homme de Torah. Quand il y avait un mariage ou quand il y avait un enterrement, elle sortait de son palais ou pour danser et chanter avec la kala ou pour consoler la famille du défunt ou de la défunte. Quand elle est morte, elle est morte très cruelle. Eliyahu Navi le dit, toi avec tout le mal que tu as fait, tu as tué tout le prophète, tu as tout fait, il y aura le chien qui va lâcher de ton sang. Tellement tu es témoigné, tu n'auras même pas un enterrement, tu n'auras même pas la chance d'être enterré. Et c'est comme ça, tout son corps a été déchiqueté, coupé, dispersé, sauf deux organes, les mains et le pied. Et là, on explique pourquoi. Les mains qu'elles tapaient devant la Hatam et la Kala, alors ils se méritent, ils sont partis au Lamaba. Et les pieds, aussi ils avaient ce mérite qu'elles marchaient, parce que la mitzvah d'accompagner un cercueil, c'est d'accompagner quatre coudées le cercueil, ça aussi c'est une mitzvah qu'elle a faite, ses pieds aussi méritaient d'aller au Lamaba, d'être enterrés. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Il est possible qu'une personne soit mécréante, méchante et tout ce qu'on veut, mais certains organes qu'elle a fait la mitzvah avec, elles auront une part au Lamaba, malgré que tout le reste du corps n'a pas. Elle n'a pas, mais ses organes, ils ont. Dit le Maharam Chik, un des commentateurs, il explique. Imaginez-vous, vous faites une mitzvah avec n'importe, avec la main, avec le pied. Alors, ils iront là-bas, les yeux, la tête, n'importe quoi. Si c'est tout le corps, adraba. Mais il y a un organe qui peut enlever tout le olamaba à la personne, lui donner tout le olamaba. C'est quoi? La bouche. La bouche. Comment? C'est écrit, on le dit chaque Shabbat. Kalatzmotai tomarna Adonai michamocha. Toutes mes os qui se trouvent dans le corps diront Hachem, qui est comme vous? Il n'y a pas comme Hachem. Et il y a tout un long, on chante ça dans Nishmat. Quand on chante Shabbat Nishmat, ce verset se trouve là-bas. Il disait Kalatzmotai tomarna, toutes mes os diront. Qui veut dire, s'ils disent, c'est la langue qui va dire. Et la langue, qu'est-ce qu'elle fait bouger? Elle fait bouger tous les os du corps. Alors il disait, avec la langue, tu peux donner Olam Haba à tout ton corps. Et avec la langue, ou si tu peux enlever tout l'Olam Haba de ton corps. Comment? Comme disait Shlomo HaMelech. Mavet vechaim biyad alashon. La mort ou la vie dépend de la langue. La langue peut te donner tout l'Olam Haba. Et la langue peut, chas v'shalom, l'enlever. Alors il dit un organe qui peut ou donner ou prendre. Pour ça, il dit que c'est très important de ne pas parler la shonara, hein, parce que tu peux, chas v'shalom, même si tu as fait des mitzvot, tu peux tout perdre. Mais par contre, si tu apprends la Torah, avec la langue, tu peux aller, tout le corps peut aller au Lamaba, malgré que la personne n'avait pas beaucoup de mérite. Achav lui-même, qui a écouté beaucoup sa femme, lui, il avait un mérite aussi, qui lui a donné au Lamaba. C'est quoi son mérite? Quand il y avait de Tamidei Chamim, de gens qui étudiaient la Torah, lui, il courait pour les aider. Malgré que sa femme tuait les prophètes, tuait tout le monde, lui, il courait pour aider les gens de la Torah. Puisqu'il aidait les gens de la Torah, c'est ça son mérite d'avoir au Lamaba, malgré que la femme ne l'a pas eu. Pour dire que, il y a deux parachotes, pleines et complètes et longues, pour dire, pour regarder, quand on lit la paracha, c'est pour nous à regarder et voir que combien de dégâts peut faire la langue, combien de bien aussi peut faire la langue, mais c'est à nous à faire attention, nous n'avons plus cette lèpre, cette plaie qui s'appelle la lèpre, c'est ça? Mais des fois tu peux voir, pourquoi? Le Hafetz Chaim dit, si quelqu'un n'a pas un bon mazal, ou s'il veut quelque chose, il voit que s'il y a beaucoup d'empêchements, beaucoup de les choses ne vont pas, il dit qu'il garde sa langue de parler le mal et qu'il apprend un peu la shonara. Et il dit, c'est une garantie, tout celui qui a appris le livre de Hafetz Chaim, de la shonara, il dit c'est une garantie qu'il surmontera tout problème. Parce que tout le problème vient de la bouche et en étudiant ce loi, il surmonte n'importe quel problème. Et beaucoup de familles, il dit comme ça, il y a une, chaque année il sort de grands pamphlets, combien de familles, combien de gens ont été aidés en étudiant ces lois-là, hein, ils ont surmonté tous leurs problèmes, ils n'avaient plus de problèmes grâce à ces lois. Alors, il n'y a pas de la lèpre, mais il y a quand même des effets secondaires de ce problème de parler la shonara, mais on peut le surmonter en étudiant, en faisant de bien avec la langue qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, justement pour l'étude de la Torah, l'utiliser pour le bien, et c'est ça la distinction entre l'homme et l'animal, pour que l'homme parle de grandeur d'Hachem, et pas Kadosh Shalom de baisser et de faire du mal à quelqu'un. Bon. Alors ça c'est pour ce qui concerne la paracha. Une question pour la paracha.
Vous dites que quand la femme fait du bien, elle partage avec l'homme et comme l'homme. Et l'homme aussi partage avec sa femme. Alors comment ça se fait que ce monsieur a été bien?
C'est contre. Oui. Isabelle était un peu spéciale. Achav n'était pas si méchant. Elle lui poussait à faire le mal. Lui, il était bien. Lui, il était influençable. Ça veut dire qu'on pouvait lui parler, on pouvait l'influencer pour le bien. C'est elle qui le poussait toujours à faire le mal. Au point que, on raconte là-bas dans l'histoire, que Achav, il avait une histoire terrible qui lui est arrivée. C'est quoi l'histoire qui est arrivée? L'histoire qui était qu'il a vu un vignoble. Et il voulait de ce vignoble. Hein?
Vignoble.
Vignoble. C'est un vignoble. Et il voulait de ce vignoble. Il pouvait pas l'avoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, il a demandé au monsieur, vends-moi-le. Il voulait pas le vendre. À la fin, sa femme lui a dit, toi reste au palais, laisse-moi s'occuper, moi je veux lui parler, va te vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené deux témoins, qui ont témoigné que ce monsieur a parlé mal contre le roi. Ils l'ont mis au jugement. Le juge a décrété tout de suite. Les témoins, ils étaient à elle. Le juge était d'elle. Le juge a décrété, il a parlé mal du roi, il faut le tuer. Ils l'ont tué, ils ont pris le vignoble, ils l'ont transféré au roi. C'est ça? Alors, elle était tellement méchante, lui, il était encore bien. On pouvait l'influencer. Elle était très méchante. Alors, on ne pouvait pas lui accréditer à elle le mérite de son mari parce que, d'abord, il n'avait pas beaucoup de mérite. Il a suivi sa femme. Ça, c'est une chose. Mais à part cela, elle faisait beaucoup de choses contre le Am Israël, car Kadosh Baruch Hu ne lui laissait pas ce mérite d'avoir Olam Haba grâce à ce que son mari se faisait. Bon. C'est ça.
Est-ce que c'est
le même Olam Haba que les Juifs? Non. Dans Olam Haba, il y a plusieurs niveaux dans Olam Haba. Même les Juifs, ce n'est pas tout le monde dans le même Olam Haba. Même dans Israël, il y a des gens, par exemple, les gens qui ont été tués à cause qu'ils sont Juifs. Les gens de l'Holocauste. C'est ça, Rabbi Akiva. Les dix martyrs. C'est ça, 10 martyrs et tout ça. Ça, on dit que sur Olam Haba, personne ne peut atteindre. Personne. C'est-à-dire, même les plus grands sadikim ne rentrent pas là-bas, dans ce parti. Et une personne qui a été tuée parce qu'il est juif, il a une part dans un Olam Haba, dans un monde futur, que personne ne peut atteindre. Même le plus grand sadik ne peut pas atteindre. Il y a des sadikim, on dit que les sadikim, ils sont jaloux, un de l'autre dans notre monde. Pourquoi? Chaque sadik, il a son Olam Haba. Et ça, chaque tzaddik, il a un différent Olam Haba. Et quand il se regarde, il dit, pourquoi lui, il a tout ça? Et pourquoi moi, j'ai pas ça? Et l'autre regarde, ils sont jaloux un de l'autre. Mais il faut comprendre, l'Olam Haba, il n'est jamais pareil pour tout le monde. Alors, quand on dit un converti, ou quand on dit un martyr, ou on dit n'importe quoi, c'est des différents niveaux selon ce qu'Akash Boukou décide. Il y a personne qui a le même Olam Haba que l'autre. Alors, on a d'expliquer que même le goïm, c'est là qu'ils observent le 7 mitzvot de Bnei Noir. Eux aussi, ils ont l'Olam Haba. C'est pas le même, mais ils ont leur niveau dans l'Olam Haba. Mais quand même, déjà, de pénétrer ces portes qui s'appellent l'Olam Haba, c'est déjà un niveau. De ne pas être de l'autre côté, c'est déjà quelque chose de très grand. Maintenant, combien? Après, c'est une question de jalousie. Qui veut dire, une fois que tu es rentré à l'Olam Haba, et tu vois, si je me serais forcé un peu plus, j'aurais eu comme lui. Ou comme lui. Ça va. Tant que tu es rentré, tu es rentré dans le bon porte et tu es déjà dans l'Olam Haba. Ça, c'est tu as fait un grand pas. Combien?
C'est plus question d'argent.
Il n'y a pas d'argent là-bas. Là-bas, c'est.
Tu vas pas descendre, tu vas pas aller à l'Olam Haba tout de suite. Après, non, il va y aller.
Oui, ça veut dire. Non. Il y a des gens. Exactement. Dans l'Olam Haba, il y a 7 niveaux. Alors, s'il est à niveau numéro 7, alors après 12 mois, il sort là-bas, il rentre en Olam Haba. Mais si numéro 2, 3 ou 4, numéro 1, ça veut dire tout à fait au fond,
il faut
attendre. Ça, c'est pour ça qu'il y a de grandes sadikim.
Il veut dire que même là-bas, il y a plusieurs niveaux.
Oui. C'est pour ça, les grands tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Le grand tzadikim, quand ils arrivent au Olam Haba, ils peuvent toujours, tout de suite accéder au Olam Haba. Mais ils ne veulent pas. Ils demandent au tribunal céleste, montre-nous comment a l'air l'enfer. On veut voir qu'est-ce que c'est l'enfer. Même voir l'enfer, ce n'est pas un plaisir. Ça fait peur. Mais ce tzadikim insiste de voir l'enfer, de passer par là-bas. Tout d'abord, pour qu'un tzadik passe à côté de l'enfer, il faut mettre sur tout le... C'est pas du pavé là-bas, c'est de la neige. Pourquoi? Pour refroidir un peu le chemin. Ça, et le tzaddik passe pas. Mais c'est quoi l'intérêt du tzaddik passer par là-bas? L'intérêt du tzaddik, parce que des fois, il y a des tzaddikim qui se jettent dans l'enfer. Où est-ce qu'il se jette? Il se jette au septième niveau, au premier niveau, tout à fait en bas. Pour le tzadik, il ne va pas rester là-bas, c'est sûr. Tout de suite, ils vont le sortir. Mais quand il sort, il attrape les mains de plusieurs gens. Venez, venez avec moi, il ramasse, il prend tous ces gens, et on se dit qu'on ne peut pas refuser. Alors, quand il ramasse ces gens, il le fait rentrer avec lui à Olam Haba. C'est pour ça qu'on dit que c'est des gens qui s'attachent au tzadikim, des choses comme ça, parce que même s'ils n'ont pas de mérite, s'ils rencontrent, Olam Haba, il peut l'attraper, il peut l'emmener avec lui dans Olam Haba. Tout ça, le tzadikim, qui sache, et le genre de l'enfer, ça veut dire les anges de l'enfer, ils ne sont pas intéressés que le tzadikim passe par là-bas. Ils ne sont pas intéressés. Mais quand ils demandent et ils ont du mérite, ils ne peuvent rien faire, le tribunal est obligé de les accorder. Et quand ils passent, ils prennent avec eux. Malgré que c'est pas agréable pour eux, mais c'est sauver des âmes juives. Pour tout le monde. La réincarnation. C'est ça. Tout le monde. Ah non. C'est pour ça qu'ils explosent, parce qu'ils veulent. Bon, très bien.